La Silicon Valley Bank a donc fait faillite aux États-Unis. En 3 jours, plus d'un million de tweets ont provoqué 42 milliards de retraits de la part des déposants. La cotation d'une trentaine de banques a dû être suspendue en raison de trop fortes baisses des cours. En Europe, c'est Crédit Suisse qui a montré des signes inquiétants, l'action ayant perdu plus de 80% de sa valeur en 2 ans, dont 25% en une seule journée. Et voilà le spectre de la crise financière de 2008 qui fait son retour. On se remet à craindre l'effondrement du système financier mondial. C'est pourquoi j'ai invité dans cette arrivée demain Catherine Lubochinski. Bonjour Catherine.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes économiste spécialisée notamment dans les banques et la finance internationale. Vous êtes professeure à l'université Panthéon-Assas. Vous êtes membre du cercle des économistes. Est-ce que vous êtes inquiète ?
Non, mais je suis d'un naturel optimiste, on va dire. Et puis, surtout parce que les banques sont quand même beaucoup mieux régulées qu'au moment de la grande crise financière. Et parce que les 2 faillites bancaires aux États-Unis ne sont pas liées a priori à une mauvaise qualité des actifs détenus par ces banques.
Alors, regardons le cas de la Silicon Valley Bank d'abord. Hein. Sa faillite est-elle due à un mouvement de panique des clients qui se retirent qui retirent en masse leurs dépôts? Les banques sont très vulnérables à la rumeur, hein, on le sait, c'est vieux comme le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est amplifié par les réseaux sociaux.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la SVB? C'est très intéressant. C'est une banque spécialisée avec les valeurs de la tech, hein, les startups de la tech. On estime qu'à peu près 50% des entreprises de la tech faisaient affaire avec cette banque. Alors, différents degrés, mais bon, avaient des liens avec cette banque. Pendant les années 2020-2021, l'argent coulait à flot, c'est les injections de liquidités massives, les taux zéro, un peu partout dans le monde. Et les valeurs de la tech ont été très facilement financées.
Voire gonflées.
On a beaucoup prêté, sans compter, à ces start-up pleines d'avenir, espérons-le. Et voilà, donc elles ont déposé cet argent dont elles n'avaient pas besoin immédiatement sur leur compte à la banque. Donc les dépôts de la SVB ont énormément augmenté très rapidement. Or, une banque, elle ne va pas garder des dépôts sans rien faire. Il faut utiliser ses fonds. Et elle a en particulier acheté des emprunts d'État américains. Ok, normal. On dit sont des actifs sans risque. On oublie de préciser sans risque de défaut. Mais bien sûr, quand les taux montent, les prix baissent. Donc, ce n'est pas totalement sans risque. Le problème, c'est qu'elle a acheté ses titres à très long terme. Et donc, la sensibilité au risque de taux est plus importante. Or, en 2022, on sait que la Fed, enfin, les banques centrales en général, ont recommencé à monter les taux. Et là, les problèmes vont commencer à apparaître parce que les techs vont être moins financés. Le financement vers les start-up technologiques, ça sèche. Donc, ce n'est pas grave. Ces entreprises ont beaucoup de liquidités en dépôt, donc elles utilisent ces dépôts. Et donc la banque, la SVB, fait face à une sortie d'à peu près 73 milliards de dollars de dépôts en 6 à 9 mois, ce qui est énorme. Donc elle utilise ce qu'elle avait prévu d'utiliser dans ce cas de figure en vendant ses titres qui étaient là, liquides, hein, ses emprunts d'État. Sauf que, pas de chance quand même, comme les taux ont remonté, en vendant 21 milliards d'emprunts d'État, elle fait une perte de 1,8 milliard de dollars. Et là, quand même, on commence un petit peu à s'inquiéter parce qu'elle annonce en même temps que du coup, elle va quand même procéder à une augmentation de capital parce que ses pertes utilisent du capital, font fondre le capital. Et là, les inquiétudes arrivent.
Donc, les dirigeants de la banque savaient qu'ils étaient en péril.
Alors, c'est intéressant parce que dans les comptes qui avaient été publiés en début d'année, il était bien mentionné qu'une partie des actifs en emprunt d'État enregistrés ailleurs faisait apparaître une perte potentielle de 15 milliards de dollars du fait de la hausse des taux d'intérêt. Et je pensais que n'importe quel analyste comparait quand même ce chiffre à 12 milliards de fonds propres et pourrait s'inquiéter. Alors c'est vrai qu'il y a des choses très techniques qui font que ce n'est pas des pertes immédiates, mais enfin bon. Ça pouvait alerter. Mais dans cette banque, le directeur des risques avait démissionné en avril. Le nouveau directeur, avril 2022, le nouveau directeur des risques n'est arrivé qu'en janvier 2023. Donc, il y a quand même... Oui. Donc, le risque de transformation et surtout le risque de taux d'intérêt n'était pas géré. Ce qu'on remarque, c'est qu'en Europe, les banques se couvrent beaucoup plus du risque de taux d'intérêt, mais comme toute couverture et comme toute assurance, ça a un coût. Donc les banques américaines le font moins.
On fait une pause, Catherine Dubochinski, et on y revient tout de suite, parce que tout ça peut avoir des conséquences.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
L'économiste Catherine Dubochinski, spécialisée notamment dans les banques et la finance internationale, est avec nous ce matin sur Europe 1. En effet, cette semaine, la Silicon Valley Bank a connu la plus grande faillite bancaire en 15 ans. Est-ce qu'elle risque d'en entraîner d'autres dans sa chute? Vous nous l'avez expliqué, Catherine Dubochinski. Visiblement, c'était une banque qui n'a pas toujours très bien fait son travail, et donc c'est normal qu'elle tombe. Mais est-ce qu'il peut y avoir des conséquences alors, sur les déposants et sur d'autres banques?
Alors, les inquiétudes ont augmenté parce qu'il y a une deuxième banque qui a fait aussi faillite, Signature Bank, qui est localisée également en Californie et qui avait de la clientèle à peu près similaire, c'est-à-dire des clients aisés, des clients qui travaillent dans des entreprises aussi, un peu de la tech, mais il y avait beaucoup moins de concentration sur les valeurs technologiques. Ça, c'était un défaut supplémentaire d'SVB, c'est que toute sa clientèle était concentrée sur le même secteur d'activité. Or, chacun sait, notre grand-mère nous l'a toujours dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on fait de la diversification, ce qui n'était pas fait à SVB. Signature Bank, c'était fait. Mais ce que les déposants ont compris, c'est que les montants déposés n'étaient assurés qu'à hauteur de 250 000 dollars. Or, il y avait des montants déposés en millions de dollars. Et donc, ils ont pris peur et ils ont également procédé à un retrait massif de dépôts, créant de ce fait un risque de liquidité dramatique qui n'était pas lié à un risque de défaut de la banque, mais qui en est devenu un.
En Europe, la banque qui inquiète, c'est Crédit Suisse, la deuxième banque helvétique, dont la valeur a dégringolé en bourse, près de 25% en une seule journée. Son actionnaire principal, la National Saudi Bank, a refusé de lui venir en aide. C'est la Banque Nationale Suisse qui a dû intervenir pour lui permettre d'emprunter 50 milliards de dollars. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la Silicon Valley Bank?
Pas vraiment, dans le sens où ces deux banques ne sont pas reliées, sont pas interconnectés. Est-ce que c'est un rapport? C'est-à-dire qu'avec les deux faillites qu'il y a eu, qui sont produites aux États-Unis, les analystes, les acteurs de la sphère financière se sont posés des questions sur l'ensemble des banques et on a bien vu toutes les valeurs des banques en bourse diminuer, chuter drastiquement pour aucune raison finalement. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'est penché sur le cas de Crédit Suisse qui de plus a annoncé au même moment une perte abyssale de plus de 7 milliards de dollars en 2022 alors que l'ensemble du système bancaire a annoncé des profits importants.
Oui, évidemment. Donc, ça fait peur.
Là, ça fait peur.
Alors, c'est 5 fois la taille de Lehman Brothers, Crédit Suisse. C'est pas n'importe quoi. Elle fait partie des banques que l'on qualifie de « too big to fail ».
Oui, elle fait partie des banques qui sont systémiques et systémiques au niveau international.
Ça veut dire que sa faillite pourrait entraîner la faillite d'autres banques.
Alors, oui, parce que les banques sont interconnectées entre elles, elles ont des opérations de prêts, d'emprunts.
Mais Catherine, pourquoi est-ce que Crédit Suisse, un établissement datant du milieu du 19e siècle, qui a été longtemps la première banque commerciale du pays, avant d'ouvrir des succursales dans le monde entier, connaît-elle depuis quelque temps de telles difficultés? Parce que ça date pas d'hier, on n'arrête pas de parler de Crédit Suisse.
Ben oui, mais pourquoi on en parle à chaque fois? C'est pour annoncer une amende liée à des brèches dans leur système de lutte contre le blanchiment, des brèches dans d'autres pour détournement de fonds. Quand on regarde juste l'année 2021 qui a été assez dramatique, il y a eu l'affaire de Archegos qui était ce qu'on appelle un family office, qui a fait faillite en mars 2021, sauf que Crédit Suisse avait investi dans cette société-là à peu près 5,5 milliards. Enfin, en tout cas, c'est la perte que ça lui a engendrée. Donc 5,5 milliards pour commencer l'année. Puis il y a eu l'affaire Greensill Mobile, qui était une société de prêt au Royaume-Uni, dans lesquelles, encore une fois, avec lesquelles Crédit Suisse travaillait. Ça, ça a encore coûté 10 milliards de dollars. Et enfin, il y a eu l'amende d'un demi-milliard de dollars, à peu près, pour lier à l'affaire avec le Mozambique sur des histoires de prêts, de disparition de 200 millions de dollars. Donc, si on fait le total, rien que pour l'année 2021, ces affaires, on va dire, ont coûté quand même 16 milliards de dollars à la banque.
Alors, l'avenir nous dira si Crédit Suisse peut être sauvé, si elle est solvable. La baisse du cours de bourse n'implique pas forcément la faillite. Hein, là, mais on voit bien que tout le monde a peur de la panique. Hein. Les marchés, les actionnaires, les déposants, les autres banques, tout le monde peut paniquer. Or, c'est un système basé sur la confiance. C'est donc un système qui est vulnérable.
Alors oui, mais c'est très lié au comportement humain et la finance comportementale est amusante à cet égard parce qu'elle montre bien qu'il y a des périodes d'excès de confiance, de persévérance dans les croyances qui limitent la rationalité de l'être humain. Et on voit que les bourses en général, les cours de bourse surréagissent à toute information. Soit il y a des bulles donc à la hausse, c'est-à-dire que les valeurs s'écartent de leurs valeurs fondamentales, soit les marchés dégringolent très rapidement et ça s'explique parce que les investisseurs détiennent les titres. Donc quand les cours montent, c'est bien, ils font des profits, ça va. Mais quand les cours baissent, c'est la panique parce qu'ils font des pertes. Donc ils vendent encore plus rapidement et les pertes en général, enfin les baisses de cours, sont de plus grande ampleur et interviennent plus rapidement. Donc les gens sont très nerveux. Ils ont en mémoire la crise de 2008.
Merci Catherine Lubochinski. Je rappelle que vous êtes professeure à l'université Panthéon Assas. Et j'en profite pour signaler aux auditeurs d'Europe 1 que Patrick Sabatier anime l'invité en question tous les dimanches de 17h à 18h. Il fait revivre les temps forts de la vie d'un invité. Aujourd'hui, ce sera l'actrice Florence Pernel. Dimanche prochain, Dominique Besnéard. Et dans deux semaines, l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt.